Déambulation de Blandine, un podcast pour déambuler librement entre art et création. Une réalisation de monstudio.tv.
Dernier chapitre. Nous en arrivons au bout de notre histoire avec François Cacault. Alors, je crois qu'il était intéressant de savoir quels étaient les contemporains qui pouvaient intéresser Cacault. Parce que certes, il s'est passionné de peinture ancienne, il voulait créer un musée, mais en même temps, s'il voulait créer un musée, c'était en s'appuyant peut-être aussi sur ce qui se passait au moment où lui était à Rome et quels étaient les artistes qu'il voyait. Et puis n'oublions pas que son frère Pierre était lui-même peintre. Donc, quels sont les artistes qu'il va regarder? Alors, nous avons peu de peintures contemporaines dans sa collection, mais tout de même quelques-unes, et surtout beaucoup de sculptures. Donc je vais d'abord vous parler des deux peintures essentielles que vous trouverez toujours accrochées à nos cimaises, et ensuite à la sculpture. Alors parmi les peintures, il y a un très beau tableau qui représente une éruption du Vésuve. C'est dû au peintre que nous nommons le Chevalier Volaire. Ce Chevalier Volaire était originaire de Toulon. Son père lui-même était peintre, et lui apprend donc le maniement du pinceau. Et de Toulon, il va suivre à Paris les cours de Joseph Vernet. Joseph Vernet, qui est un des peintres à qui on avait confié de portraiturer les ports de France. Vous pouvez encore voir cette série tout à fait remarquable de ces ports de France au musée de la Marine quand il rouvrira. Mais ce sont des très grands tableaux, extrêmement vivants, où on voit tout ce qui peut se passer dans un port, depuis les portefaix jusqu'aux magnifiques bateaux, etc. Et donc, le Chevalier Volaire va apprendre et va comme ça, s'initier à la peinture de marine. Et puis, comme tous les gens, j'ai envie de dire, tous les peintres de son époque, c'est Rome qui l'attire. Il va à Rome, il rentre dans une académie de peintres qui est l'Académie de Saint-Luc. C'est là, d'ailleurs, qu'il va tirer son titre de chevalier, puisqu'il devient chevalier de l'Académie. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le Chevalier Volaire. Mais finalement, il y a une ville qui l'attire beaucoup, qui est Naples. Il faut dire que Naples attire beaucoup à la fois les historiens et les artistes. On a, depuis peu, en fait, identifié Pompéi. Et Pompéi fascine. Enfin bon, c'est quand même une ville qu'on retrouve petit à petit. On commence les fouilles à partir des années 1770 à peu près, donc on retrouve tout ça. Donc Volaire part à Naples. Et à Naples, il se trouve que le Vésuve rentre en éruption. Ça faisait plus de 50 ans qu'il n'avait pas sauté, mais là, boum! Je ne sais pas si certains d'entre vous sont passés à Naples, mais quand le Vésuve gronde, quand ça crache le feu, c'est très impressionnant. Et cette ville fascine complètement le Chevalier Volaire, qui va y rester et y terminer sa carrière. Il est très connu pour toutes ses vues du Vésuve, parce qu'il en a fait énormément. Le tableau que Cacault lui a acheté est un tableau tout à fait remarquable. C'est un tableau qui résume tout ce que sait faire Volaire. C'est à la fois des petits détails un peu anecdotiques, mais surtout c'est aussi un tableau qui est déjà très romantique, puisque le centre du tableau est cette explosion du Vésuve qui a trait à la violence de la nature, et quelque chose qu'on retrouvera encore plus tard. Cette fascination va inspirer beaucoup de peintres. Donc voilà un des premiers tableaux. Et ce qui est intéressant, c'est que sans doute, Cacault a lui-même été très impressionné par le Vésuve. Donc nous avons aussi comme ça un témoignage des voyages qu'il a pu faire et ce qu'il a pu en retenir. Autre peintre connu des Nantais, et pour cause, c'est François Sablé. Alors François Sablé était un des grands portraitistes des Nantais. Pourquoi? Au départ, il est suisse. C'est son père qui lui apprend la peinture et les premiers, l'utilisation des couleurs. Il va apprendre ça à Berne aussi. Et puis, il vient à Paris et il est élève d'un des grands académiciens qui est Vien. Il se trouve qu'il fait la connaissance d'Elisabeth Vigée-Lebrun, qui était une peintre femme quand même, qui a exécuté plusieurs portraits de Louis XVI et de Marie-Antoinette, mais la Révolution arrive, et donc les fréquentations des nobles ou du roi, c'est plus vraiment ce qu'il faut faire. Et il se trouve qu'il a un ami qui s'appelle Marc Turin-Crucy. Marc Turin-Crucy est un homme très important pour Nantes, puisque c'est lui qui va refaire tout l'urbanisme du centre de Nantes. Et donc Marc Turin-Crucy lui dit de venir à Nantes, qui va trouver de quoi vivre. Et effectivement, il s'installe à Nantes et là, il va portraiturer toute la bourgeoisie nantaise. Nous avons au musée un bel exemple, un petit mur. C'est des petits portraits. N'oublions pas, il n'y a pas la photographie. Donc le seul moyen de se souvenir de quelqu'un, c'est de faire un petit portrait. Les petits portraits qui font à peu près 20 par 20, vous avez un petit mur, vous avez toute une série de gens qui appartenaient à la bourgeoisie nantaise. On connaît le nom de toutes ces personnes, on peut refaire toute leur biographie. Et donc il se trouve que, bien sûr, il a portraituré Cacault. Donc dans tout cet ensemble, nous voilà au milieu des gens que fréquentait Cacault. Et maintenant, dernier petit chapitre sur Kako. Pour cadrer un peu le personnage, je voudrais parler de sa collection de sculptures. Elle n'est pas très importante en nombre, mais elle est importante sur le fond. Parce que Kako estimait qu'il y avait deux leçons indispensables pour les artistes et pour les publics. C'était d'une part la nature, d'autre part l'Antiquité. Donc il va faire des copies, quand il est à Rome, des copies de sculptures romaines, mais il va aussi acheter quelques contemporains. C'est des contemporains un peu particuliers, parce que c'est des contemporains qui eux-mêmes font des copies d'antiques, mais pas seulement. Donc par exemple, il va demander à Laboureur de lui faire une série de copies, Bacchus et Ariane, le centaure Borghese, mais pas seulement. Bien sûr, il y a toujours Napoléon qui traîne un peu, et il se trouve que Laboureur va copier un buste d'un artiste italien, Cerracci, qui avait fait, lui, un nu héroïque du premier consul, nu que le premier consul n'a jamais accepté. Et l'histoire est souvent extrêmement savoureuse. À la fin de l'Empire, ce nu est toujours à Paris, et il se trouve que le duc de Wellington, perfide Albion, trouve cette sculpture absolument formidable et va récupérer la sculpture. Bref, donc il y a plusieurs bustes du premier consul, surtout de Bonaparte, et Laboureur fera une série de grandes sculptures. Il y en a une en particulier encore de 4 mètres de haut à Ajaccio, que vous pouvez voir, qui représente notre premier consul. Et puis, autre sculpteur formidable, c'est Canova. Canova est un des très grands sculpteurs de la seconde moitié du XVIIIe, parce que c'est surtout de la seconde moitié du XVIIIe qu'il travaille. Il est originaire de la région de Venise. Très vite, il est formé par sa famille, son tailleur de pierre, et il va lui aussi réaliser quelques copies d'antiques, mais aussi quand même beaucoup de sculptures d'inspiration mythologique, grecque ou romaine. Il fait pour énormément de bustes, de statues, de cénotaphes, enfin, etc. Et Kako va être chargé de demander à Canova de faire le portrait du premier consul. Le premier consul n'apprécie pas forcément son portrait, mais voilà. Il le fait à l'antique, en 1810. Et la sculpture dont je vais vous parler est une pièce absolument monumentale. C'est un très grand plâtre, colossal. C'est la tête du pape Clément XIII. Canova fait le cénotaphe de Clément XIII, bien après sa mort d'ailleurs, agenouillé, il le représente. Et nous avons un tirage en plâtre de cette tête extrêmement expressive, très réaliste, qui nous rappelle, et c'est pour ça que c'est intéressant, que Kako a toujours hésité entre la nature, donc le réalisme, et l'antiquité, qui elle est au contraire complètement idéalisante. Donc pour terminer un peu, mais j'avais un peu envie de vous parler, puisque on parlait de Kako et de ses contemporains, d'un de nos contemporains que vous pouvez voir en ce moment de façon un peu étrange. Si vous prenez la ligne 1 du tram, il y a une grande bâche sur laquelle il y a 3 œuvres du Musée des Beaux-Arts qui sont reproduites. Une peinture de Joan Mitchell, des photographies de Baldessari, qui est un artiste anglais, Joan Mitchell étant une artiste d'origine américaine, qui a vécu en France, mais d'origine américaine, et puis au milieu, un Duane Hanson. Alors, il se trouve que Duane Hanson est rentré au Musée des Beaux-Arts de Nantes alors que j'en étais la directrice. Et pourquoi ai-je fait rentrer cette œuvre? D'une part, parce que je pense que Duane Hanson est un très grand artiste. Je vais vous expliquer pourquoi. Et d'autre part, parce que pour moi, c'est une allégorie parfaite de là où, d'où vient un musée. En fait, vous avez une dame. Peut-être est-ce une collectionneuse, ou peut-être plutôt, je pense que nous sommes dans un marché aux puces, et elle a réuni autour d'elle tout ce qu'elle a à vendre. Des livres, des petits tableaux, un chapeau, bon. Et elle est d'un réalisme absolument extraordinaire, parce que c'est ce qu'a toujours cherché Duane Hanson. Il fait partie de ces artistes hyper réalistes américains qui moulaient carrément leur modèle. Ils prenaient les empreintes du modèle pour faire les tirages, et qui s'est toujours intéressé à la réalité de la vie quotidienne américaine. Au sens, j'ai envie de dire, le plus politique qu'il soit. C'est-à-dire que, par exemple, il a fait un policier blanc en train de taper sur un noir, il a fait une dame avec son caddie de supermarché. Et donc là, cette dame, assise, attendant le client, avec sa petite collection, c'est pas encore un musée. Peut-être que dans toute cette petite collection, une ou deux pièces pourraient rentrer, au départ de façon anonyme, et puis peut-être que ce sera un Georges de la Tour.